Bonjour à tous, à toutes que je n'ai pas su saluer. Je dis que la grâce et la paix de la part de notre Père, Dieu le Père, du Seigneur Jésus, soit avec vous. Merci Patrick pour nous avoir conduit dans cette première partie, nous rappelant encore que Jésus-Christ, notre Seigneur, et roi, je vous invite à la prière. Oui, Dieu de bonté, tu nous dépasses. L'immensité de ta grandeur, nous sommes trop petits pour la saisir. Mais nous voulons te dire merci parce que dans ton immensité, tu nous as aimés aussi petits que nous sommes, et tu t'es rapproché de nous par Jésus. Aujourd'hui, nous sommes appelés tes enfants. Ce matin, nous voulons que tu nous apprennes à vraiment marcher comme tes enfants, dignes de son nom. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous à travers nos pensées, nos cœurs. Et moi-même, je me soumets pour que toi seul, tu puisses diriger mes propos, mes pensées, que seulement ce qui édifie l'Église de Christ sorte de ma bouche. Seulement ce qui édifie tes enfants sorte de ma bouche. Éclaire-nous, conduis-nous pendant que nous méditons ta parole. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Nous voici arrivés à la deuxième et dernière partie du chapitre 16 qui marque la fin de la première épître de Paul aux Corinthiens. L'épître que nous avons commencé il y a plus d'un an. Dans la première partie de ce chapitre, les quatre premiers versets qui traitaient des questions économiques, il était question de mobilisation chez les Corinthiens pour récolter les dons en faveur des frères et sœurs dans la foi qui étaient dans le besoin à Jérusalem. Un appel à la générosité que tout et chacun pour les nécessités qui sont parmi nous. Après le culte et les jours qui ont suivi, nombreux d'entre vous ont manifesté leur volonté et leur souhait de faire quelque chose pour l'entraide dans notre communauté. En réponse à votre demande, nous avons encore élargi le champ d'action du service social qui existe déjà au sein de notre Église. Nous annonçons la réouverture de la banque alimentaire et la récolte des habits en bon état, quelque chose qui avait déjà existé au sein de notre Église, quelque chose qui fait partie de l'appel de l'Église de Christ. Dieu merci, nous avons parmi nous les personnes engagées au quotidien dans le domaine social, capables de fournir les informations nécessaires et utiles dans ce domaine. C'est Jocelyne qui conduit ce service social et qui va continuer également de coordonner. Bien sûr, elle ne sera pas toute seule. Il y a pas mal de personnes qui se sont déjà manifestées pour la seconder, du moins former une équipe en vue de pouvoir récolter vos dons. Donc au niveau de ce qui est des aliments et des habits en bon état, pour que notre service social puisse aussi continuer dans l'action qui a déjà existé, je le rappelle, il n'y a rien de nouveau, ce n'est que la continuité de ce service qui a été existé. Rappelons que l'apôtre Paul avait conclu le chapitre 15 de 1 Corinthiens avec le verset 58 que certains considèrent même comme la conclusion de cet épître, en soulignant que l'espérance de la résurrection donne leur sens à tous les efforts et à tous les sacrifices accomplis pour l'œuvre du Seigneur Jésus. Aucune œuvre est faite en son nom n'est vaine. Paul exhorte les Corinthiens à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Un appel, en même temps, un encouragement à chercher le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, sachant que notre travail aura de l'importance aux yeux de notre Seigneur Jésus. C'est sur base de cet encouragement que nous entamons la deuxième partie des recommandations de l'apôtre Paul concernant des responsabilités pour l'Église, une partie qui porte sur les projets personnels et les salutations de Paul. On peut se demander qu'est-ce qu'on va apprendre dans les salutations et les projets d'une personne, mais reconnaissons l'expérience qui est de Paul. Je vous invite à prendre la parole de Dieu et nous allons parcourir ensemble le 1 Corinthiens, chapitre 16, à partir du verset 5 jusqu'à la fin de ce chapitre. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 16, verset 5. « Je reviendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par là. Il est possible que je séjourne quelque temps chez vous, ou même que j'y passe l'hiver. Ainsi, vous pourrez m'aider à poursuivre mon voyage là où je dois me rendre. Je ne veux pas, cette fois-ci, vous voir seulement en passant, mais j'espère rester quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet. Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, veuillez à ce qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille tout comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise, aidez-le à poursuivre en paix son voyage de retour vers moi, car je l'attends avec les frères. Quant au frère Apollos, je l'ai beaucoup encouragé à venir aussi chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il viendra quand il en aura l'occasion. Restez vigilants. Tenez ferme dans la foi. Soyez courageux. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Voici encore une recommandation, frères et sœurs. Vous savez que la famille de Stéphanas est le premier fruit d'Achaïe et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Soumettez-vous à de telles personnes ainsi qu'à tous ceux qui travaillent et peinent avec elles. Je me réjouis de la présence de Stéphanas et de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de telles personnes. les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison, vous saluent chaleureusement dans le Seigneur. Tous les frères et sœurs vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un baiser, par un saint baiser. Pardon. Moi, Paul, je vous salue de ma propre main. Verset 22, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit. » Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Il y a beaucoup dans les salutations, les projets de Paul. Derrière ces versets qui, à première vue, nous semblent si simples, comme je l'ai dit, on peut se poser la question, pourquoi nous partager ces projets, ces salutations? Mais derrière ces versets, on y trouve un homme engagé à l'œuvre du Seigneur. Paul en invoqua brièvement son propre engagement, celui de Timothée, celui d'Apollos à l'œuvre du Seigneur, dans les versets 5 à 8. Il nous livre un modèle d'un disciple appliqué et engagé pleinement pour l'évangélisation et l'édification. L'apôtre Paul a une vision, un plan pour l'avenir. C'est un homme qui anticipe. Il envisage aller à Corinthe en traversant la Macédoine. Il a un cap. Mais également, il fait preuve de flexibilité, si c'est nécessaire, puisqu'il dit qu'il pourrait rester un temps à Corinthe si le Seigneur le permet. Mais en attendant, on voit sa fidélité au présent parce qu'il décide de travailler dur et de rester à Éphèse au moment où il écrivait cet épître, premier épître aux Corinthiens. Rappelons-nous que Paul était à Éphèse. Et ici, il partage sa vision. Bien que je travaille fidèlement à Éphèse, j'ai un projet d'aller visiter la Macédoine, de venir chez vous à Corinthe, mais je compte passer à la Macédoine. Si Dieu le permet, je resterai chez vous. Au verset 9, il nous dit pourquoi déjà il reste à Éphèse, parce qu'une porte lui est ouverte. Il y a un ministère. Et il ne veut pas l'abandonner. Nous voyons un homme, non seulement qui planifie pour l'avenir, mais qui pouvait aussi le faire dans le présent. Il n'y a pas de précipitation chez Paul. Il nous parle d'une porte qui est largement ouverte. Une invitation à ne pas ignorer les opportunités qui s'offrent à nous pour servir le Seigneur. Là où Dieu ouvre une porte, il faut que quelqu'un la franchisse. Et ça, Paul y est déjà clair, c'est clair dans sa tête. Parfois, nous attendons le poste idéal à nos yeux pour servir le Seigneur. En lisant l'Épître, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, verset 3, lorsqu'il était question de trouver des hommes capables de distribuer les plats, les apôtres ont exigé des hommes de qualité exceptionnelle. On nous dit des hommes de qui l'on rend un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. juste pour distribuer les dons, à manger, à boire, les habits, au quotidien. Mais on exige que ces hommes soient avec un bon témoignage, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, alors que c'est les gens qui devraient juste porter les plateaux pour distribuer. Ceci pour nous rappeler qu'il n'y a pas de petit job au service du Seigneur. Non, chaque service offert au Seigneur est noble, peu importe ce comment nous, les hommes, nous pouvons le qualifier. Mais chaque service est noble et nécessite les qualités en effet pour l'accomplir. Et c'est le Seigneur qui donne la promotion. Il est clair, le Seigneur élève ceux qui sont déjà à son service, ceux qui travaillent, ceux qui ont déjà fait l'épreuve, même dans des services qui paraissent simples aux yeux des hommes. Peut-être que vous posez la question de ce que vous pouvez faire pour servir le Seigneur. Si c'est le cas pour vous, faites-en un sujet de prière. Et si cela vous tient vraiment à cœur, sûrement Dieu vous éclairera et vous équipera. Je me suis encore émerveillé en lisant la parole de Dieu que je vais vous inviter à partager. C'est dans le livre de Exode, au chapitre 31. J'y ai trouvé ce que moi je peux appeler un secret de vie. Et si j'étais jeune, au moment où on choisit de quoi faire, je pense que ce texte peut inspirer les jeunes ou chercher. Qui demander? Nous sommes dans Exode au premier, au chapitre 31, au premier verset. Il est question des artisans qualifiés par l'Esprit. L'Éternel dit à Moïse, « Sachez que j'ai choisi Betsaler, fils d'Uri, et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habilité, de l'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour être Oholiab, fils d'Aïssam, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habilité dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Ici s'arrête notre lecture. Vous pouvez me demander pourquoi ce passage. Mais quand on regarde ici, on voit que c'est Dieu qui parle. Il dit à Moïse que c'est lui qui choisit une personne et qui l'équipe de toute qualité qu'on peut s'imaginer pour son service. Oui, bien-aimé, c'est Dieu qui est la source de la sagesse, de l'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. C'est lui qui équipe, c'est lui qui nous donne même, qui donne même les gens pour accompagner à son service. Oui, tout ce dont nous avons besoin en termes de qualité, savoir-faire se trouve auprès de notre Dieu. Aux jeunes, vous avez entendu celui qui équipe, je crois, de tout mon cœur, que Dieu éclaire toute personne qui fait appel à lui, les jeunes ainsi que les personnes âgées. Dieu est la source de toutes les qualités que nous pouvons envier, que nous pouvons chercher. Et tant que c'est dans sa volonté, et tant que c'est pour son service, il est capable de nous équiper. À la fin du verset 9 de notre lecture du jour, l'apôtre Paul nous prouve que servir le Seigneur selon sa volonté exige l'acceptation de l'opposition comme un défi. Les adversaires étaient nombreux. Et Paul n'y passe pas à côté. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous partage cette information. La ville d'Éphèse était un carrefour commercial considéré comme la porte de l'Asie. Il y avait un centre de culte d'Artémis pour les Grecs et un vaste système d'idolâtrie organisé dans le temple de Diane, la déesse romaine. Il y avait le paganisme et l'idolâtrie, la perversion sexuelle, la possession démoniaque et les préjugés religieux. On y parle même du racisme. Tout ce qui n'est pas nouveau qu'on peut trouver dans les villes d'aujourd'hui se trouvait à Éphèse. Malgré tous ces obstacles et la situation décrite, Paul décide d'y rester. Et il va y rester pendant 3 ans. Il décide de relever ce challenge, de prêcher l'évangile de Christ dans une ville spirituellement ténébreuse, malgré les souffrances qui en découlaient. Il en parlait dans son 2e épître aux Corinthiens, 1er chapitre, versets 8 et 10. Il parlait combien ils ont souffert, mais Dieu, dans sa miséricorde, les a assistés et les a délivrés. Oui, l'opposition à l'évangile restera un défi jusqu'à ce que Christ revienne. C'est un fait que tout évangéliste doit intégrer dans son quotidien. Dans notre lecture, au verset 10 et 12, dans le partage de Paul, il nous montre combien il est aussi nécessaire de faire esprit d'équipe. Il fait preuve d'esprit d'équipe, dans le sens où il demande aux Corinthiens de bien traiter Timothée comme s'il le faisait pour Paul lui-même. Il montre également combien il est attentif. Il est nécessaire d'être attentif à la direction du Saint-Esprit. Écoutez l'Esprit de Dieu. Paul ne dicte pas la loi et n'essaye pas d'imposer, de dominer sur Apollos. On pouvait se dire, l'homme, aussi fort qu'il est, il devrait parler, les autres devraient s'exécuter. Mais ici, il est habile et il écoute ce que dit l'Esprit. Il n'impose pas à Apollos de partir à Corinthe. Non, il respecte son point de vue, qu'il était occupé à un autre ministère. Une qualité que Paul nous partage, savoir écouter l'Esprit et reconnaître qu'au service du Seigneur, nous n'avons pas le monopole des idées, savoir écouter les autres. Au milieu de ce chapitre 16, au verset 13 et 14, Paul va nous révéler 5 principes. 5 principes que John MacArthur qualifie des principes pour une vie spirituelle intense. À travers ces 2 versets, l'apôtre Paul montre aux Corinthiens comment redresser leur église. Il faut une saine doctrine et l'amour, les deux piliers qui soutiennent l'Église. Il va les demander d'être vigilants. Restez vigilants. Pourquoi la vigilance? Oui, il est nécessaire de garder à cœur qu'il y a toujours, comme Paul vient de le montrer, des multiples dangers qui guettent le chrétien. Notamment le diable lui-même, le Satan. La parole de Dieu dit, soyez vigilants et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il faut veiller, il faut une vue plus attentif à cela. Et cette vie de vigilance prenne sa source dans la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu, en puisant dans la parole de Dieu, qu'on acquiert cette capacité d'être vigilant face au diable, face à la tentation, face à l'indifférence qui parfois peuvent nous prendre dans une action, face aux faux docteurs, la capacité de discerner ce qui nous est prêché, face au manque de temps de prière, il faut une vigilance. Et Paul exhorte les Corinthiens à être vigilants. Deuxièmement, rester ferme et conserver leur foi. C'est une lutte au quotidien pour le chrétien. Le but de Satan étant toujours de vouloir éteindre cette foi qui est la nôtre, qui est la vérité, la source de la vérité qui nous conduise. Et Paul va dire à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est une lutte de garder la foi. Le diable fait tout pour nous polluer dans la vie au quotidien, nous mentir avec des mensonges. Il nous incombe de connaître la doctrine de la parole de Dieu. Encore une fois, de plonger nos regards dans la parole de Dieu, d'y puiser la force pour nourrir notre foi, pour rester ferme dans ce que nous avons cru. Paul exhorte les Corinthiens à chercher la maturité. Soyez mûrs. Là aussi, la maturité ne provient que dans la parole de Dieu, une saine doctrine. Quand on puise dans la parole de Dieu, jour après jour, comme nous le disait ce matin un frère pendant notre réunion matinale, jour après jour, quand on plonge nos regards dans la parole de Dieu, elle nous nourrit, elle nous éclaire, elle nous donne la maturité nécessaire à laquelle nous sommes tous appelés à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Paul exhorte également les Corinthiens de se fortifier. Fortifiez-vous. En effet, il est clair qu'on ne peut pas se fortifier soi-même. Mais c'est quelque chose que nous recevons. Paul le dit, que Dieu les a secourus lorsqu'ils étaient presque à mort à Éphèse. Et c'est réconfort, cette source qui nous fortifie, n'est qu'un don de Dieu. Oui, c'est l'Esprit qui nous fortifie, c'est l'Esprit qui nous assiste, c'est l'Esprit de Dieu qui nous vient en aide. Il nous faut rester en contact avec l'Esprit de Dieu. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Et Jésus disait à ses disciples, « Vous ne pouvez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc il nous incombe d'avoir ce temps de prière, de ne pas attrister le Saint-Esprit, de rester connecté pour que l'Esprit de Dieu puisse nous ressourcer, nous fortifier dans notre cheminement, dans notre activité au quotidien, au service du Seigneur. Et le cinquième principe que Paul demande aux Corinthiens, c'est d'avoir l'amour, tout faire dans l'amour, faire tout dans l'amour, être aimant. Nous l'avons vu, chez les Corinthiens, l'amour, c'était quelque chose qui brillait par son absence. Il y avait des divisions depuis le premier chapitre au verset 10, chapitre 3, là où l'un dit « Je suis à Paul », l'autre à Apollos, l'autre à Céphas. Ils étaient pervertis dans l'immoralité au chapitre 5, au chapitre 6. Ils se poursuivaient même en justice. Au chapitre 7, les époux se privaient mutuellement de leurs biens. Au chapitre 8, les frères les plus forts opprimaient les plus faibles. Au chapitre 11, ils accaparaient la nourriture lors du festin du Seigneur et les pauvres arrivés en retard n'avaient rien à manger. Malgré les dons qui étaient à Corinthe, il n'y avait pas d'amour. Ils étaient dépourvus d'amour. Et lorsque Paul les dit de tout faire avec amour, c'est un renversement des codes, c'est un choc qu'ils subissent. À une seule affirmation, l'apôtre Paul renverse le raisonnement. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Une réponse à leurs problèmes. C'est aux Corinthiens que l'apôtre Paul a pris le temps d'exalter avec le plus bel et complet hymne de l'amour et sa supériorité. Nous l'avons appris, le 1 Corinthiens 13, qui nous parle de ce que c'est l'amour en détail. Et au verset 13 de ce chapitre 13, Paul dit ceci, « Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Il est le premier parmi les caractéristiques du fruit que produit l'Esprit de Dieu chez le croyant. En Galates 5, verset 22, l'amour est plus fort que tout. Paul exhorte que tout ce que nous faisons soit fait par amour. Dans les versets qui suivent, versets 15 et 17, Paul met en évidence, apprécie le dévouement et la consécration de la famille de Stéphanas au service des saints et exhorte la communauté à se soumettre à de telles personnes, à ceux qui travaillent et peinent avec elles. Il apprécie le dévouement, il apprécie la consécration. Deuxièmement, il apprécie aussi et met en évidence les bienfaits de l'amour fraternel. L'arrivée de ses trois amis, Stéphanas, Fortunatus et Aïkakus, a été pour Paul une véritable source de réconfort et d'encouragement. Ces deux versets mettent en évidence combien l'hospitalité et l'affection entre les frères et sœurs prennent leur source dans un amour fraternel, sincère. C'est important, l'amour fraternel. Il rend les choses faciles pour ceux qui travaillent ensemble. L'amour fraternel sincère rend la charge facile à supporter. Et cela nous compte. Et cela, Dieu le voit, le Seigneur le voit. Et c'est une exhortation pour nous tous qui servent le Seigneur. Vers la fin, au verset 22, nous voyons un message qui sonne comme très fort. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit maudit, Maranatha. On peut se demander que vienne faire ce message dur à la fin de cet épître. Mais Paul parle pour l'amour de l'Église. Les mots qui sonnent durs aux oreilles, mais que l'apôtre exprime son vœu que l'Église soit pleine d'amour et d'affection pour le Seigneur. Mais si les Corinthiens n'ont même pas une profonde affection pour Jésus-Christ, qu'ils soient maudits. Dieu vient et enlève-le. On peut dire que Paul a été dur dans ses propos, mais son amour envers l'Église lui pousse à dire, si malgré tout ce que vous avez entendu, l'exaltation que vous avez entendue, les dons que Christ a mis parmi vous, vous continuez à introduire l'impureté dans l'Église pure de Christ, alors que Dieu se charge de vous. Une parole forte, mais qui vient d'un cœur de quelqu'un qui veut préserver et qui porte l'amour à l'Église de Christ. Et il le dit, et pour tous ceux qui aiment le Christ, il conclut que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Il témoigne son amour. Il veut qu'ils avancent. Il veut qu'ils se présentent devant Dieu sans honte. C'est par amour qu'il fait tout cela. Il avait annoncé au chapitre 4 de cet épître, au verset 14, voici ce qu'il dit. « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » Paul partage ses projets, il partage ses salutations, et parfois même il tient une parole dure aux oreilles, mais parce qu'il aimait les Corinthiens, parce qu'il voulait qu'ils excellent dans les qualités que Dieu les a données pour le service du Seigneur. Un homme de vision, un homme flexible, un homme fidèle au service, un homme qui nous montre l'exemplarité, qui nous invite à nous engager, à tenir les opportunités qui se présentent devant nous pour servir le Seigneur. Un homme qui nous encourage à être vigilant, ferme dans la foi, à chercher la maturité dans la parole de Dieu. Un homme qui nous partage son vécu. Il nous invite à être connectés au Saint-Esprit qui est la source de notre amour, qui nous fortifie. Voilà pourquoi Paul nous partage ses projets et ses salutations. En conclusion, le ministère exemplaire de l'apôtre Paul nous lance un appel en effet à nous engager pour l'œuvre du Seigneur, avoir de projets pour l'avenir tout en restant fidèle au poste du présent, toujours motivé pour l'évangélisation et l'édification en saisissant les opportunités qui se présentent devant nous. Soyons persévérants au service du Seigneur, prêts à accepter des oppositions comme un défi à relever pour l'évangile de Christ. Poursuivons la saine doctrine, l'amour de la parole de Dieu. Oui, la sainte doctrine qui prenne sa source dans l'amour de la parole de Dieu. Et n'attristons pas le Saint-Esprit, source de notre amour et notre force. Travaillons à l'amour fraternel au service du Seigneur. C'est un véritable réconfort dans lequel puise notre hospitalité et notre affection les uns envers les autres. Paul dira à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé qui n'a point à rougir. » L'œuvre de Dieu mérite le meilleur de nous-mêmes et gardons à l'esprit la question d'un serviteur motivé pour son Seigneur. Ai-je fait de mon mieux? Ai-je vraiment fait de mon mieux? Le temps que le Seigneur me place à la rue du moniteur, ai-je vraiment fait de mon mieux au service de mon Seigneur? Ai-je vraiment fait de mon mieux dans ma famille, là où aussi nous servons le Seigneur? Ai-je vraiment fait de mon mieux dans mon entourage? Est-ce que l'Évangile parle par rapport à ma vie, au comportement et au témoignage que je laisse? Ai-je vraiment fait de mon mieux au service de mon Seigneur? Restez vigilants, tenons fermes dans la foi, soyons courageux, fortifions-nous dans le Seigneur, que tout ce que nous faisons soit fait avec amour. Je vous invite à la prière. Dieu de bonté, nous te serons toujours reconnaissants parce que tu nous fais grâce ce matin d'écouter ta parole en toute liberté. Merci pour ces merveilles qui se trouvent dans ta parole que tu mets devant nous pour nous bénir. Oui, ton désir, c'est notre bien. Ton désir, c'est de marcher avec nous. Tu nous connais tous, tu nous maîtrises. Tu connais ce que tu as mis en nous pour te servir. Puisses-tu éclairer chacun de nous pour que nous puissions te servir selon ta volonté. Puisses-tu ouvrir nos oreilles spirituelles pour que nous puissions capter ce que tu nous dis au quotidien, Saint-Esprit de Dieu. Puisse planter en nous l'amour de ta parole chaque jour, pour que nous puissions grandir à la connaissance de ta personne. Conduis ton Église, conduis chacun de nous. Que ton Esprit Saint règne dans nos vies. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen.